Claude Rémy, vous êtes président d'Arnica Montana. Bonjour.
Bonjour.
On se retrouve aujourd'hui pour une pitié pour les arbres.
Oui, pitié pour les arbres, et ces arbres, ils nous rendent de grands services. Et je dirais, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Ben, quand on veut couper un arbre, on l'accuse de tous les méfaits. D'être dangereux, d'être allergisant, alors que, bon, il y a des arbres qui sont allergisants. Moi, j'ai eu un cas de personne, il y a un arbre, il faut le couper, il est allergisant. Ce qu'il appelait allergisant, c'était les fruits cotonneux qui ne sont absolument pas allergisants. Mais par contre, la personne avait des touillages tout autour de chez elle, alors que là, par contre, c'est extrêmement allergisant. Donc, tous les prétextes sont bons pour couper des arbres. Ça fait de l'ombre. Alors que quand on a des feuillus, on est bien content d'avoir de l'ombre l'été et pas l'hiver. Donc on coupe, on tronçonne. Parfois, ben, malheureusement, on a vu que même dans les Hautes-Alpes, hein, que ce soit... Bon, on ne va pas citer de ville quand même, mais on coupe des arbres pour gagner quelques places de parking. Hein. Dans le sud du département, on a coupé 10 arbres sur une place de la République pour gagner quelques places de parking. Donc on coupe des arbres qui sont sains. Alors bien entendu, un arbre qui présente un danger... parce qu'il est creux, il risque de tomber, il peut... si ce danger est réel, évidemment, on ne va pas le laisser, on va le couper, parce que là, il y a un risque au niveau de la sécurité publique. Mais ces arbres, ils nous rendent de très très grands services. Et d'ailleurs, 80% des maladies des arbres en ville, 80%, des maladies qui vont rendre le tronc creux, par exemple, hein, du fait d'attaques de champignons, qui vont rendre l'arbre dangereux, sont dues à des tailles des arbres, au fait de tailler les arbres. Parce que quand on taille un arbre, quand on le taille de façon trop importante, on va avoir une voie d'entrée aux micro-organismes qui vont pouvoir s'attaquer à l'arbre. Alors ça ne sert à rien de mettre un pansement. Il y a des gens qui disent, oh, bon, on va couper la branche, puis on va mettre, vous savez, cette espèce de mastic pour soi-disant se faire cicatriser, soi-disant... Ça ne sert à rien. Comme dit Alain Baraton, qui est le jardinier en chef du château de Versailles, ça ne sert qu'à enrichir ceux qui les vendent, ces mastics. Parce que ça macère et c'est l'effet inverse. Essayez vous-même, hein, comme dit toujours Alain Baraton, vous avez une blessure, vous mettez un pansement et vous laissez ce pansement pendant des mois et des années sans le retirer. Ben, votre doigt, il sera beau après. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, on coupe beaucoup les arbres en milieu urbain. On va surtout parler des arbres en milieu urbain, parce que sinon, ça parle des forêts, ça serait beaucoup trop long. Et on va voir que ces arbres, ils peuvent être utiles. Et on va parler un petit peu du réchauffement climatique. Vous savez qu'actuellement, ben, on parle de ce réchauffement climatique extrêmement important et extrêmement brutal, qui est attribué à l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone qui est émise par l'homme. Et on peut voir effectivement, hein, toutes les courbes montrent que cette augmentation du taux de dioxyde de carbone, qu'on appelle le gaz carbonique, est peut-être corrélée aux augmentations de la température. Et là, c'est extrêmement préoccupant pour les années à venir. On commence à voir des perturbations au niveau climatique importantes, qui ont des impacts sur l'homme extrêmement importantes. Et il faudrait arriver à ce que cette augmentation ne soit pas supérieure à 1,5 fois ce qu'elle est actuellement d'ici la fin du siècle. Alors comment est-ce qu'il va falloir y arriver? Comment est-ce qu'on peut arriver à limiter cette augmentation du dioxyde de carbone pour limiter ce réchauffement climatique, dont les conséquences sont importantes? On le voit au niveau de la fonte des glaciers en montagne aussi. Deux possibilités. Tout d'abord, réduire les émissions de CO2. Effectivement. C'est important, il faut réduire ces émissions pour limiter l'augmentation de la concentration de CO2 et le réchauffement climatique. Mais ça ne suffit pas. Il faudra arriver à baisser aussi ce taux, cette concentration de CO2 dans l'atmosphère, la baisser. Alors, bien sûr, ce CO2 il est important, hein, parce qu'il provoque une augmentation des températures par effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui est important. Sans effet de serre, la température de la Terre serait tellement basse qu'on ne pourrait pas y survivre. C'est important, mais là, il a pris des telles proportions que ça entraîne de graves problèmes dus à l'augmentation brutale des températures. Stocker le CO2. C'est-à-dire qu'il faut arriver à stocker le CO2. Donc, il faudra arriver à inventer une machine qui puisse prendre le CO2 dans l'atmosphère, le transformer en matériaux, disons, solides, l'immobiliser sous forme, disons, solide, de façon à ce qu'il n'ait plus d'influence sur le réchauffement climatique. Cette machine, il faudrait qu'elle marche à l'énergie solaire. On ne va pas la faire marcher au fioul, évidemment. Pas évident. Trouver une machine qui fixe le CO2, qui ne consomme pas d'énergie, qui ne pollue pas.
Mais
ça existe. Ça existe, une telle machine. Et vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un arbre. Alors je dirais un arbre et tous les végétaux, un vert chlorophyllien qui contiennent la chlorophylle. Alors comment ça marche ?
La photosynthèse.
C'est la photosynthèse. Photo, lumière, synthèse, fabriquée. Les feuilles de l'arbre, tous les végétaux chlorophylliens, grâce à la chlorophylle, comparer une sorte de machine, va utiliser le gaz carbonique, qu'on appelle chimiquement le dioxyde de carbone de l'atmosphère, pour le transformer en sucre. Et il faut de l'énergie. Cette énergie, c'est la lumière, c'est l'énergie solaire. Donc finalement, ces feuilles, elles captent le CO2. C'est la matière première brute. Elles vont transformer en sucre. Pour ça, il va falloir un petit peu d'eau, des sels minéraux. Il faut une source d'énergie. C'est le soleil. Ça ne coûte rien. Ça ne pollue pas. La machine fonctionne et elle rejette, elle fabrique, pardon, la matière finie, sont les sucres. Et dans toute fabrication, vous avez un déchet, en général. Ce déchet, c'est de l'oxygène, le dioxygène. Alors, on va me dire, c'est un déchet qui nous est bien utile. Le dioxygène, parce que pour la respiration, bon, les arbres aussi respirent, bien sûr, mais ils fabriquent plus de dioxygène par photosynthèse qu'ils en absorbent par respiration. Et nous aussi, on respire, on a besoin de dioxygène. Donc, c'est un déchet qui est bien utile. Et des calculs ont été faits et ont montré que 6 à 10 gros arbres rejettent la quantité de dioxygène nécessaire à la respiration d'une personne adulte. Déjà, une utilité des arbres. Alors, il y a les arbres, les végétaux chlorophylliens, mais aussi, on a tout ce qui est fabrique par photosynthèse, hein, de matière organique et rejette de dioxygène, en particulier le plancton au niveau marin, hein, qui va jouer un rôle aussi important que la végétation. Ce qui veut dire que la pollution des mers est également quelque chose de très inquiétant aussi à ce niveau-là. Donc, cet arbre, il va fabriquer, de stocker le dioxyde de carbone sous forme de matière organique. Et ça, ça se passe dans la cellule. Et dans la cellule, dans la cellule des feuilles, vous avez des toutes petites structures qui sont des usines à faire photosynthèse. Ces petites structures, elles font 3, 4 micromètres, 5. Qu'est-ce que c'est qu'un micromètre ? Vous prenez un double décimètre, vous prenez un millimètre, vous le coupez en 1000. C'est un micromètre. Vous voyez la taille ? Et bien dans ces petites structures qu'on appelle chloroplastes, de quelques micromètres, quelques millièmes de millimètres, vous avez une usine à fabriquer des sucres et à fixer le dioxyde de carbone. Et bien ça, l'homme n'est pas capable de le faire. Malgré toutes les biotechnologies actuelles, il n'est pas capable de fabriquer une telle machine dans aussi peu de place. Et l'arbre, c'est un véritable capteur solaire. Ces feuilles sont des capteurs solaires, ça représente une surface énorme, la surface des feuilles d'un arbre, ce qui permet de stocker énormément de dioxyde de carbone et de fabriquer des sucres. Et ces sucres fabriqués par l'arbre, par les végétaux chlorophylliens en général, seront à la base de toutes les chaînes alimentaires pour nourrir tous les autres êtres vivants, tous les animaux en particulier. C'est-à-dire vous retirez la végétation, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien. Nous dépendons du monde végétal. Donc cet arbre, il est fixé, c'est un véritable capteur solaire qui offre une surface gigantesque au niveau des feuilles, mais aussi au niveau des racines, pour prélever l'eau et les sels minéraux dans le sol. Sans compter tous les champignons qui sont associés à ces racines pour l'aider à prélever cette eau et ces sels minéraux. Et bien, des calculs ont été faits, en particulier par le botaniste Francis Allais. Un arbre, un bel arbre, hein, 50 mètres de haut, donc c'est quand même un bel arbre. Hein. La surface d'échange avec l'atmosphère et le sol, c'est la surface de Monaco, la principauté de Monaco. Un arbre. C'est énorme. Je crois qu'on n'est pas près de... Dans un espace, finalement, relativement restreint. Mais ça, on n'est pas près d'arriver à le fabriquer. On sait couper un arbre. Ça, oui, malheureusement, mais on sait pas le refaire. Et 50% de la matière de l'arbre, fabriquée par l'arbre, c'est du CO2. Carbone, piégé dans l'atmosphère. Un arbre de 1 mètre de diamètre va fixer chaque année plus de 5700 kg de CO2 qu'il va prélever dans l'atmosphère. Un arbre de 1 mètre de diamètre, 5700 kg de CO2 prélevés dans l'atmosphère. Énorme. Alors vous coupez un arbre, vous le brûlez. Alors non seulement cet arbre, il ne va plus absorber le CO2, c'est 5700 kg de CO2 pour un arbre, mais vous allez brûler cet arbre et rejeter le CO2 que l'arbre aura immobilisé pendant 50, 60 ans ou plus, parce que les arbres qui vivent 500, 600 ans ou... Donc vous imaginez, au niveau réchauffement climatique, la catastrophe. Alors on vous dit, oh, on va couper des arbres, et puis on va en mettre des petits. C'est une arnaque. Et comme dit Francis Allais, c'est une triple arnaque. C'est une arnaque biologique, bien sûr, environnementale, financière, patrimoniale. Quand vous prenez, on a dit, 5700 kg de CO2 pour un arbre de 1 mètre de diamètre. Si vous prenez un arbre de 10 cm de diamètre, il va fixer 19 kg de CO2 seulement par an. Vous en mettez 10 et 190. On est loin du compte. Ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas le rôle de l'arbre, des arbres qu'on a coupés, ça ne remplace même pas un seul arbre. Hein, vous voyez, donc, la place de la République dans, disons, la préfecture des Hautes-Alpes, pour ne pas citer, on a coupé 10 arbres pour gagner quelques places de parking. Ben, vous imaginez, on a coupé 10 arbres. C'est la quantité d'oxygène nécessaire à une personne. 10 arbres, c'était des beaux arbres qui absorbaient peut-être 5000 kg de CO2 par an. Pour mettre des voitures. Vous voyez le bilan catastrophique. Puis quand vous mettez un arbre, ça dépollue. Les arbres ont fixé aussi certains polluants. Et si on compare un vieil arbre, un bel arbre, avec un tout petit arbre de 10 cm, ben, l'arbre adulte de plusieurs dizaines d'années, il va absorber 60 fois plus de polluants et les fixer. Donc c'est un rôle aussi dans la pollution atmosphérique. Donc vous voyez le rôle des arbres en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui veut dire que il faut, dans la cité, au lieu de couper les arbres, il faut peut-être en replanter. Et on verra d'autres utilités extrêmement importantes pour la cité d'avoir des arbres. Donc réchauffement climatique, plantons des arbres, mettons des arbres dans la cité, des parcs. Les arbres humidifient aussi l'atmosphère et aident à réchauffer contre le réchauffement climatique. Disons pour le fonctionnement entre guillemets d'un arbre, on ne va pas rentrer dans le détail. Un arbre va absorber de l'eau du sol et va rejeter de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, on va lutter contre la sécheresse, va humidifier. En absorbant l'eau, bon, il va aussi fixer les talus, les terrains par les racines. En absorbant l'eau, il va régulariser l'écoulement d'eau. Et un arbre va rejeter en moyenne, après ça dépend des arbres bien sûr, les 500 litres d'eau par jour dans l'atmosphère. Donc un rôle d'humidification, rôle de lutte contre le réchauffement climatique. Dans un parc, on a des températures de quelques degrés inférieures en plein été à des secteurs où il n'y a que du béton. Donc c'est un rôle aussi important. Stabilisation, écoulement des stabilisation et régularisation de l'eau pour limiter les crues. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe des arbres, on coupe des haies. Ben ça régularise plus l'écoulement d'eau. Puis souvent, à la place du sol, on met du béton. Ce qui fait que quand il y a des grosses pluies, et on assèche les zones humides en plus, qui jouent le rôle d'éponge quand il pleut. Donc au lieu que l'eau s'infiltre, eh ben l'eau dévale et on observe des catastrophes, on augmente les risques de catastrophes, d'inondations, de grosses crues. Donc vous voyez, pour le réchauffement climatique, les arbres sont extrêmement importants. Ils ont également d'autres rôles beaucoup plus également importants pour la cité. Ben, un arbre, c'est aussi un écosystème. Un arbre, ça héberge beaucoup d'êtres vivants. Les lichens, on en a parlé déjà dans une émission, qui ne parasitent pas l'arbre, rappelons-le. Au lieu de vouloir brosser les troncs d'arbres pour éliminer les lichens, ou pire, de mettre des produits toxiques, ben regardez-les avec une loupe, et puis utilisez-les comme sentinelle de votre environnement, ces lichens. C'est-à-dire, si autour de chez vous, vous avez beaucoup de lichens, ça veut dire que ce n'est pas pollué, ou une diversité de lichens, ce n'est pas pollué. Par contre, ces lichens, ben, ils vont pouvoir vous tirer un signal d'alarme. S'il y a une pollution, ils vont disparaître. Et là, il se passe quelque chose. Puis on a des insectes. On a les arbres servent aussi à héberger des oiseaux qui vont faire leur nid, qui vont se nourrir, qui vont chanter, qui vont prélever des insectes qui pourraient, s'ils sont en quantité trop importante, provoquer des inconvénients. Ils peuvent héberger aussi des chauves-souris. Soit dans des cavités, et soit dans... Il suffit qu'une écorce soit un petit peu décollée pour qu'une chauve-souris puisse y trouver un abri. Et les chauves-souris, ça mange beaucoup d'insectes la nuit, complémentaire des oiseaux. Ce que fait l'oiseau le jour, la chauve-souris, elle fait la nuit. Donc les arbres sont des abris de la biodiversité, ce sont des véritables écosystèmes. Ils permettent aussi, même dans la cité, quand on a des alignements dans les milieux urbanisés, disons, la circulation d'animaux, ce qu'on appelle les trames vertes. Ça ne sert à rien d'avoir des secteurs préservés de biodiversité, de réservoirs de biodiversité, si les espèces ne peuvent pas circuler autour d'un secteur à un autre. Il faut donc des couloirs, des corridors écologiques. Les arbres peuvent jouer ce rôle de façon... non négligeable. Et ces arbres vont pouvoir jouer aussi d'autres rôles, des rôles apaisants. Des arbres dans la cité diminuent l'agressivité, peuvent diminuer la violence également. Des arbres dans des cours d'école peuvent diminuer, apaiser aussi, diminuer aussi l'agressivité. Et des études récentes ont montré que des enfants qui sont dans un environnement arboré avec des arbres, sur un parc ou autre, ben ces enfants ont une meilleure faculté de concentration, une meilleure mémorisation, et ça diminue l'incidence de certaines maladies mentales plus tard. C'est des études récentes qui l'ont montré au niveau des neurosciences. Donc, les arbres dans la cité sont extrêmement importants. Les arbres, c'est apaisant d'avoir des arbres. Autre étude, une étude qui a été faite à Chicago au niveau d'un hôpital sur 46 patients qui ont été opérés, la même opération à vésicule biliaire. 23 chambres données sur un mur. 23 chambres données sur un parc avec des arbres. Les patients qui étaient dans les chambres qui donnaient sur un parc sortaient plus vite, j'ai resté moins longtemps à l'hôpital, et consommer moins de produits antidouleurs ou anxiolytiques. Ce qui veut dire qu'il y a même un intérêt au niveau économique, au niveau du coût de la santé. Et ça, nos décideurs devraient un petit peu prendre un petit peu ce genre de choses en compte aussi. Alors non seulement sur, bien sûr, la qualité de remise en forme des patients, mais aussi au niveau économique. Ce n'est pas négligeable. On a accusé les arbres au bord des routes. Alors il y a eu des campagnes, depuis des dizaines d'années, on fait des campagnes pour couper tous les arbres au bord des routes parce qu'ils sont dangereux. Chacun sait que les arbres traversent les routes. Et bon, ils sont dangereux, on les coupe. Encore récemment, on a lancé une campagne, même dans les Hautes-Alpes, pour couper les arbres au bord des routes. On les accuse d'accidentogènes. Ben, c'est une grave erreur judiciaire. Alors, bien entendu, il faut essayer de voir, il ne faut pas coller à la route et mettre une barrière de protection pour éviter, en cas d'accident, de limiter quand même, bien entendu, les conséquences. Mais il y a une étude qui a été faite en Angleterre. On a replanté des arbres, et des arbres avant, sur une ligne droite avant un virage, on l'a fait en plusieurs secteurs, et on a rapproché, au fur et à mesure qu'on approche du virage, les arbres étaient plus rapprochés. Et on s'est aperçu que les arbres donnent une meilleure perception, disons, de la route et de l'approche de virage. Et quand il y a des arbres, la vitesse est diminué de 1,5%. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure impression de vitesse quand on voit les arbres défiler. Ce qui peut permettre au conducteur de ralentir, dire là, ça va un peu vite et ralentir. Et ça s'est traduit par 20% d'accidents en moins.
C'est énorme.
Et il y a des études comparatives qui ont été faites. Alors, je crois que c'est au niveau de la Meuse où on a fait des campagnes de coupe d'arbres au bord des routes de façon énorme. Et puis, je crois que c'est en Meurthe-et-Moselle où là, les arbres étaient plus préservés. Et bien là encore, on avait, je crois que c'est 20% d'accidents en moins dans les secteurs où on a préservé les arbres. Alors, je crois qu'au lieu de prendre des décisions au niveau de nos décideurs, de faire n'importe quoi, de couper les arbres, il faut peut-être aller un petit peu plus loin et regarder un peu d'autres études qui montrent que ça peut être aussi, l'arbre peut être aussi un allié de la sécurité routière. Au bord des routes, il va permettre aussi, les oiseaux vont plus circuler au niveau du houppier en hauteur et moins être écrasés par les voitures, etc. Les arbres vont aussi réduire la pollution. Et ça, on l'a montré à Arnica Montana. Quand vous avez une pollution routière, et vous avez une haie d'arbre qui est parallèle à la route. Même si c'est une haie d'arbre de 50 mètres d'épaisseur, ça va diminuer la pollution azotée d'origine routière. Ça, on l'a montré avec les lichens. Ça diminue le bruit. Quand vous avez une route à grande circulation, il va falloir au moins 2 km pour ne plus entendre cette circulation dérangée par le bruit. 200 mètres avec des arbres. C'est-à-dire que ça intercepte le bruit. Alors quand on voit, là encore, en matière d'urbanisme, quand on fait des nouvelles constructions, qu'est-ce qu'on fait? On coupe tous les arbres. Même les constructions à proximité des routes. C'est une aberration. Il faut laisser une haie d'arbres entre la construction et la route. Diminuer le bruit, diminuer la pollution. Eh bien, on fait exactement l'inverse. Donc, vous voyez, les arbres ont de nombreux rôles. Alors, on a dit que les arbres pouvaient jouer un rôle apaisant. Et bien ça a été démontré par des études récentes au niveau des neurosciences. Quand on voit, quand il y a quelqu'un qui est dans un environnement au niveau des arbres, ou de la nature, au contact de la nature, il y a au niveau du cerveau, et ça c'est l'étude qui a été montrée par des imageries cérébrales, on va passer comment ça fonctionne, mais qui ont montré qu'on avait une zone en particulier au niveau frontal, dans une zone particulière au niveau frontal, donc avant du cerveau, qui qui intervient dans les phénomènes de rumination, de... Vous savez, quand il y a des idées qu'on rumine en permanence toute la journée, des mauvaises idées, eh bien, cette zone du cerveau voit son activité diminuer dans un environnement apaisant, de nature. On remarque au niveau de l'électroencéphalogramme plus d'ondes alpha, qui sont des ondes lentes, qui traduisent plutôt un apaisement. Et on voit au niveau d'une autre zone plus profonde du cerveau, qu'on appelle l'amygdale, qui elle intervient dans les phénomènes d'anxiété, eh bien, on voit que cette zone est activée. Ce qui veut dire ce rôle apaisant des arbres dont on parlait déjà tout à l'heure. Eh bien, il a été démontré par les études des neurosciences. Donc il faut absolument préserver ces arbres, même dans la cité. Et vraiment, là, il faudrait que l'ensemble des décideurs, des élus, puissent en prendre conscience. Et il y a certaines communes qui imposent, lorsqu'il y a des plans locaux d'urbanisme, et qui imposent dans des constructions, qu'il y ait un certain pourcentage d'arbres. Que tout terrain constructible, on maintienne un pourcentage d'arbres. Et ça me semblerait des mesures extrêmement fortes à prendre. Et on voit qu'à différents niveaux, que ce soit pour le réchauffement climatique, que ce soit pour l'apaisement, que ce soit pour le bien-être des gens dans la cité également. Plutôt que de voir du béton partout, il faut voir des arbres. Quand on fait un projet d'urbanisme, ce que conseille Francis Allais, c'est déjà de mettre les endroits arborés avant de mettre les immeubles. Parce que si on met uniquement les immeubles, il ne reste plus de place pour les arbres. Sur les projets, on voit toujours plein d'arbres. Puis dans la réalité, il n'y en a plus beaucoup. Et puis quand on plante un arbre, il faut essayer de le planter de façon à ce qu'il ne porte pas, soit pas un inconvénient ensuite. Parce qu'un arbre, vous avez la surface, la hauteur, le houppier avec les feuilles, il prend un certain volume, mais vous avez aussi les racines, qui peuvent s'étendre jusqu'à deux fois la hauteur de l'arbre. Alors ne plantons pas des arbres juste contre un mur, par exemple. Tout ça doit être pensé avant de faire des constructions. Où est-ce qu'on va mettre des arbres? Qu'est-ce qu'on va mettre? On ne va pas planter du pin sambreau au centre-ville de Briançon, par exemple. C'est un arbre qui va pousser à plus de 2000 mètres d'altitude, qui a besoin de certaines conditions et qui sera sûr de ne pas pousser. Oui. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Prendre les essences en fonction de l'endroit, en fonction des conditions climatiques, du sol, et puis éviter, quand on met un arbre, de recouvrir le bitume imperméable, où là, évidemment, ça ne va pas être terrible pour l'arbre aussi. Et d'anticiper, quand on a des arbres qui commencent à prendre un aspect, on commence à mettre des jeunes arbres avant de le couper, pour qu'ils prennent le relais. Il faut anticiper sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc c'est toute une gestion qu'il faudra avoir dans la cité, dans les cités, pour maintenir de la verdure au niveau des villes. On a vu, ça joue des rôles extrêmement importants à différents niveaux. Et là, moi, je recommanderais un livre, c'est pas pour faire de la publicité, j'ai cité plusieurs fois Francis Allais, qui est un livre, c'est un petit livre, qui n'est pas très cher et pas très long à lire. Francis Allais est un botaniste, spécialiste des arbres, c'est un grand spécialiste des arbres, il a beaucoup travaillé aussi dans les forêts tropicales, c'est vraiment un très très grand spécialiste des arbres, et qui a écrit un livre il y a quelques années, « Du bon usage de l'arbre », un plaidoyer à l'attention des énarques et des élus. Et c'est un livre qui est très pratique. Tout élu devrait lire ce livre, parce qu'il y a des conseils très très pratiques et qui sont vraiment ces conseils qui sont basés sur des données scientifiques, sur la physiologie des arbres, sur les données scientifiques, des études qui ont été faites, on en a cité plusieurs. Et on peut dire que, pour conclure, l'arbre n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin des arbres.
Merci beaucoup.